Jusqu'au moment où commence cette histoire, elle eut l'existence la plus heureuse que puisse imaginer une femme assez forte pour se protéger elle-même. De 1817 à 1834, elle était venue 5 ou 6 fois aux touches. Son premier voyage eut lieu, après sa première déception, en 1818. Sa maison des touches était inhabitable. Elle renvoya son homme d'affaires à Guérande et en prit le logement aux touches. Elle n'avait alors aucun soupçon de sa gloire à venir. Elle était triste, elle ne vit personne, elle voulait en quelque sorte se contempler elle-même après ce grand désastre. Elle écrivit à Paris ses intentions à l'une de ses amies, relativement au mobilier nécessaire pour arranger les touches. Le mobilier descendit par un bateau jusqu'à Nantes, fut apporté par un petit bâtiment au croisic, et de là transporté, non sans difficulté, à travers les sables jusqu'aux touches. Elle fit venir des ouvriers de Paris, et se casa aux touches, dont l'ensemble lui plut extraordinairement. Elle voulut pouvoir méditer là, sur les événements de la vie, comme dans une chartreuse privée. Au commencement de l'hiver, elle repartit pour Paris. La petite ville de Guérande fut alors soulevée par une curiosité diabolique. Il n'y était bruit que du luxe asiatique de Mademoiselle des Touches. Le notaire, son homme d'affaires, donna des permissions pour aller voir les Touches. On y vint du Bourg de Bas, du Croisic, de Savenay. Cette curiosité rapporta en 2 ans une somme énorme à la famille du concierge et du jardinier, 17 francs. Mademoiselle ne revint aux Touches que 2 ans après, à son retour d'Italie, et y vint par le Croisic. On fut quelque temps sans la savoir à Guérande, où elle était avec Conti le compositeur. Les apparitions qu'elle y fit successivement excitèrent peu la curiosité de la petite ville de Guérande. Son régisseur et tout au plus le notaire étaient dans le secret de la gloire de Camille Maupin. En ce moment, cependant, la contagion des idées nouvelles avait fait quelques progrès dans Guérande. Plusieurs personnes y connaissaient la double existence de Mademoiselle des Touches. Le directeur de la poste recevait des lettres adressées à Camille Maupin aux Touches. Enfin, le voile se déchira. Dans un pays essentiellement catholique, arriéré, plein de préjugés, la vie étrange de cette fille illustre devait causer les rumeurs qui avaient effrayé l'abbé Grimond et ne pouvait jamais être comprise. Aussi parut-elle monstrueuse à tous les esprits. Félicité n'était pas seule aux Touches. Elle y avait un hôte. Cet hôte était Claude Vignon, écrivain dédaigneux et superbe qui, tout en ne faisant que de la critique, a trouvé moyen de donner au public et à la littérature l'idée d'une certaine supériorité. Félicité, qui depuis 7 ans avait reçu cet écrivain comme 100 autres auteurs, journalistes, artistes et gens du monde, qui connaissait son caractère sans ressort, sa paresse, sa profonde misère, son incurie et son dégoût de toutes choses, paraissait vouloir en faire son mari par la manière dont elle s'y prenait avec lui. Sa conduite, incompréhensible pour ses amis, elle l'expliquait par l'ambition, par l'effroi que lui causait la vieillesse. Elle voulait confier le reste de sa vie à un homme supérieur, pour qui sa fortune serait un marchepied et qui lui continuerait son importance dans le monde poétique. Elle avait donc emporté Claude Vignon de Paris aux Touches, comme un aigle emporte dans ses serres un chevreau, pour l'étudier et pour prendre quelques partis violents. Mais elle abusait à la fois Caliste et Claude. Elle ne songeait point au mariage, elle était dans les plus violentes convulsions qui puissent agiter une âme aussi forte que la sienne, en se trouvant la dupe de son esprit, en voyant la vie éclairée trop tard par le soleil de l'amour, brillant comme il brille dans les cœurs à 20 ans. Voici maintenant la chartreuse de Camille. À 100 pas de Guérande, le sol de la Bretagne cesse, et les marais salants, les dunes, commencent. On descend dans le désert des sables que la mer a laissé comme une marge entre elle et la terre, par un chemin raviné qui n'a jamais vu de voiture. Ce désert contient des sables infertiles, les mares de forme inégale bordées de crêtes boueuses où se cultive le sel, et le petit bras de mer qui sépare du continent l'île du Croisic. Quoique géographiquement le Croisic soit une presqu'île, comme elle ne se rattache à la Bretagne que par les grèves qui la lient au Bourg de Bas, sables arides et mouvants qui ne sauraient se franchir facilement, elle peut passer pour une île. À l'endroit où le chemin du Croisic à Guérande s'embranche sur la route de la terre ferme, se trouve une maison de campagne entourée d'un grand jardin, remarquable par des pins tortueux et tourmentés, les uns en parasol, les autres pauvres de branchages, montrant tout leur tronc rougeâtre aux places où l'écorce est détachée. Ces arbres, victimes des ouragans, venus malgré vents et marées, pour eux le mot est juste, prépare l'âme au spectacle triste et bizarre des marais salants et des dunes qui ressemblent à une mer figée. La maison, assez bien bâtie en pierre schisteuse et en mortier, maintenue par des chaînes en granit, est sans aucune architecture. Elle offre à l'œil une muraille sèche, régulièrement percée par les baies des fenêtres. Les fenêtres sont à grandes vitres au premier étage et au rez-de-chaussée en petits carreaux. Au-dessus du premier sont des greniers qui s'étendent sous un énorme toit élevé, pointu, à deux pignons, et qui a deux grandes lucarnes sur chaque face. Sous le triangle de chaque pignon, une croisée ouvre son œil de cyclope, à l'ouest sur la mer, à l'est sur Guérande. Une façade de la maison regarde le chemin de Guérande et l'autre le désert au bout duquel s'élève le croisic. Par-delà cette petite ville s'étend la pleine mer. Un ruisseau s'échappe par une ouverture de la muraille du parc que longe le chemin du croisic, le traverse et va se perdre dans les sables ou dans le petit lac d'eau salée cerclé par les dunes, par les marais et produit par l'irruption du bras de mer. Une route de quelques toises, pratiquée dans cette brèche du terrain, conduit du chemin à cette maison. On y rentre par une grande porte. La cour est entourée de bâtiments ruraux, assez modestes, qui sont une écurie, une remise, une maison de jardinier, près de laquelle est une basse-cour avec ses dépendances, plus à l'usage du concierge que du maître. Les tons grisâtres de cette maison s'harmonient admirablement avec le paysage qu'elle domine. Son parc est l'oasis de ce désert, à l'entrée duquel le voyageur trouve une hutte en boue où veillent les douaniers. Cette maison sans terre, ou dont les terres sont situées sur le territoire de Guérande, a dans les marais un revenu de 10 000 livres de rente et le reste en métairie disséminée en terre ferme. Tel est le fief des Touches, auquel la Révolution a retiré ses revenus féodaux. Aujourd'hui, les Touches sont un bien, mais les paludiers continuent à dire le château. Ils diraient le seigneur si le fief n'était tombé en quenouille. Quand Félicité voulut restaurer les Touches, elle se garda bien, en grande artiste, de rien changer à cet extérieur désolé qui donne un air de prison à ce bâtiment solitaire. Seulement la porte d'entrée fut enjolivée de deux colonnes en briques soutenant une galerie de sous laquelle peut passer une voiture. La cour fut plantée. La distribution du rez-de-chaussée est celle de la plupart des maisons de campagne construites il y a 100 ans. Évidemment, cette maison avait été bâtie sur les ruines de quelques petits castels, perchés là comme un anneau, qui rattachait le croisic et le bourg de Bas à Guérande, et qui seigneurisait les marais. Un péristyle avait été ménagé au bas de l'escalier. D'abord, une grande antichambre planchéiée, dans laquelle Félicité mit un billard, puis un immense salon à 6 croisées, dont 2 percées au bas du mur du pignon, forment des portes, descendent au jardin par 10 marches, et correspondent dans l'ordonnance du salon aux portes qui mènent l'une au billard et l'autre à la salle à manger. La cuisine, située à l'autre bout, communique à la salle à manger par une office. L'escalier sépare le billard de la cuisine, laquelle avait une porte sur le péristyle, que Mademoiselle des Touches fit aussitôt condamner en ouvrant une autre sur la cour. La hauteur d'étage, la grandeur des pièces, ont permis à Camille de déployer une noble simplicité dans ce rez-de-chaussée. Elle s'est bien gardée d'y mettre des choses précieuses. Le salon, entièrement peint en gris, est meublé d'un vieux meuble en acajou et en soie verte, des rideaux de calicot blanc avec une bordure verte aux fenêtres, 2 consoles, une table ronde. Au milieu, un tapis à grands carreaux, sur la vaste cheminée à glace énorme, une pendule qui représentait le char du soleil entre 2 candélabres de style impérial. Le billard a des rideaux de calicot gris avec des bordures vertes et 2 divans. Le meuble de la salle à manger se compose de 4 grands buffets d'acajou, d'une table, de 12 chaises d'acajou garnies en étoffe de crin et de magnifiques gravures d'Audran encadrées dans des cadres en acajou. Au milieu du plafond, descend une lanterne élégante comme il y en avait dans les escaliers des grands hôtels et où il tient 2 lampes. Tous les plafonds, à solives saillantes, ont été peints en couleur de bois. Le vieil escalier, qui est en bois à gros balustres, a, depuis le haut jusqu'en bas, un tapis vert. Le premier étage avait 2 appartements séparés par l'escalier. Elle a pris pour elle celui qui a vu sur les marais, sur la mer, sur les dunes, et l'a distribué en un petit salon, une grande chambre à coucher, 2 cabinets, l'un pour la toilette, l'autre pour le travail. Dans l'autre partie de la maison, elle a trouvé de quoi faire 2 logements, ayant chacun une antichambre et 1 cabinet. Les domestiques ont leur chambre dans les combles. Les 2 appartements à donner n'ont eu d'abord que le strict nécessaire. Le luxe artistique qu'elle avait demandé à Paris fut réservé pour son appartement. Elle voulut avoir, dans cette sombre et mélancolique habitation, devant ce sombre et mélancolique paysage, les créations les plus fantasques de l'art. son petit salon étendu de belles tapisseries des gobelins, encadrées des plus merveilleux cadres sculptés. Aux fenêtres, se drapent les étoffes les plus lourdes du vieux temps, un magnifique brocart à double reflet, or et rouge, jaune et vert, qui foisonne en plis vigoureux, orné de franges royales, de glands dignes des plus splendides dais de l'église. Ce salon est rempli par un bahut que lui trouva son homme d'affaires et qui vaut aujourd'hui 7 ou 8 000 francs, par une table en ébène sculptée, par un secrétaire aux 1000 tiroirs, incrustés d'arabesques en ivoire et venus de Venise, enfin par les plus beaux meubles gothiques. Il s'y trouve des tableaux, des statuettes, tout ce qu'un peintre de ses amis put choisir de mieux chez les marchands de curiosités, qui, en 1818, ne se doutaient pas du prix qu'acquerraient plus tard ses trésors. Elle a mis sur ses tables de beaux vases du Japon, au dessin fantasque. Le tapis est un tapis de Perse, entré par les dunes en contrebande. Sa chambre est dans le goût du siècle de Louis XV et d'une parfaite exactitude. C'est bien le lit de bois sculpté, peint en blanc, à dossier cintré, surmonté d'amour se jetant des fleurs, rembourré, garni de soie brochée, avec le ciel orné de 4 bouquets de plumes, la tenture en vraie perse, agencée avec des ganses de soie, des cordes et des nœuds, la garniture de cheminée en rocaille, la pendule d'or moulu, entre 2 grands vases du premier bleu de Sèvres, montés en cuivre doré, la glace encadrée dans le même goût, la toilette Pompadour avec ses dentelles et sa glace, puis ses meubles si contournés, ses duchesses, cette chaise longue, ce petit canapé sec, la chauffeuse à dossier matelassé, le paravent de laque, les rideaux de soie pareils à celles du meuble, doublés de satin rose et drapés par des cordes à puits, le tapis de la savonnerie, enfin, toutes les choses élégantes, riches, somptueuses, délicates, au milieu desquelles les jolies femmes du XVIIIe siècle faisaient l'amour. Le cabinet, entièrement moderne, oppose aux galanteries du siècle de Louis XV un charmant mobilier d'acajou. Sa bibliothèque est pleine, il ressemble à un boudoir, il a un divan. Les charmantes futilités de la femme l'encombrent, y occupent le regard d'œuvres modernes. Des livres à secret, des boîtes à mouchoirs et à gants, des abat-jour en lithophanie, des statuettes, des chinoiseries, des écritoires, 1 ou 2 albums, des presse-papiers, enfin les innombrables colifichets à la mode. Les curieux y voient avec une surprise inquiète des pistolets, un narguilé, une cravache, un hamac, une pipe, un fusil de chasse, une blouse, du tabac, un sac de soldat. Bizarre assemblage qui peint Félicité. Toute grande âme, en venant là, sera saisie par les beautés spéciales du paysage qui déploie ses savanes après le parc, dernière végétation du continent. Ces tristes carrés d'eau saumâtres, divisés par les petits chemins blancs sur lesquels se promène le paludier, vêtu tout en blanc, pour ratisser, recueillir le sel et le mettre en mulon. Cet espace que les exhalaisons salines défendent aux oiseaux de traverser, en étouffant aussi tous les efforts de la botanique, ces sables où l'œil n'est consolé que par une petite herbe dure, persistante, à fleurs rosées et par l'œillet des chartreux, ce lac d'eau marine, le sable des dunes et la vue du Croisic, miniature de ville arrêtée comme Venise en pleine mer, enfin, l'immense océan qui borde les récifs en granit de ses franges écumeuses pour faire encore mieux ressortir leurs formes bizarres, ce spectacle élève la pensée tout en l'attristant, effet que produit à la longue le sublime, qui donne le regret de choses inconnues, entrevues par l'âme à des hauteurs désespérantes. Aussi ces sauvages harmonies ne conviennent-elles qu'aux grands esprits et aux grandes douleurs. Ce désert plein d'accidents, où parfois les rayons du soleil réfléchis par les eaux, par les sables, blanchissent le bourg de bas et ruissellent sur les toits du Croisic, en répandant un éclat impitoyable, occupait alors Camille des jours entiers. Elle se tournait rarement vers les délicieuses vues fraîches, vers les bosquets et les haies fleuries qui enveloppent Guérande, comme une mariée, de fleurs, de rubans, de voiles et de festons. Elle souffrait alors d'horribles douleurs inconnues. Dès que Calyste vit poindre les girouettes des 2 pignons au-dessus des ajoncs du grand chemin et les têtes tortues des pins, il trouva l'air plus léger. Guérande lui semblait une prison, sa vie était aux touches. Qui ne comprendrait les attraits qui s'y trouvaient pour un jeune homme candide? L'amour pareil à celui de Chérubin, qu'il avait fait tomber au pied d'une personne qui devint une grande chose pour lui avant d'être une femme, devait survivre aux inexplicables refus de Félicité. Ce sentiment, qui est plus le besoin d'aimer que l'amour, n'avait pas échappé sans doute à la terrible analyse de Camille Maupin, et de là, peut-être, venait son refus, noblesse incomprise par Calyste. Puis là brillaient d'autant plus les merveilles de la civilisation moderne qu'elles contrastaient avec tout Guérande, où la pauvreté des Duguesnic était une splendeur. Là se déployèrent au regard ravi de ce jeune ignorant, qui ne connaissait que les genêts de la Bretagne et les bruyères de la Vendée, les richesses parisiennes d'un monde nouveau, de même qu'il y entendit un langage inconnu, sonore. Calliste écouta les accents poétiques de la plus belle musique, la surprenante musique du XIXe siècle, chez laquelle la mélodie et l'harmonie luttent à puissance égale, où le chant et l'instrumentation sont arrivés à des perfections inouïes. Il y vit les œuvres de la plus prodigue peinture, celle de l'école française, aujourd'hui héritière de l'Italie, de l'Espagne et des Flandres, où le talent est devenu si commun que tous les yeux, tous les cœurs fatigués de talent appellent à grands cris le génie. Il y lut ses œuvres d'imagination, ces étonnantes créations de la littérature moderne qui produisirent tout leur effet sur un cœur neuf. Enfin, notre grand XIXe siècle lui apparut avec ses magnificences collectives, sa critique, ses efforts de rénovations en tout genre, ses tentatives immenses et presque toutes à la mesure du géant qui berça dans ses drapeaux l'enfance de ce siècle et lui chanta des hymnes accompagnés par la terrible basse du canon. Initié par Félicité à toutes ces grandeurs, qui peut-être échappent au regard de ceux qui les mettent en scène et qui en sont les ouvriers, Calliste satisfaisait aux touches le goût du merveilleux si puissant à son âge, et cette naïve admiration, le premier amour de l'adolescence, qui s'irrite tant de la critique. Il est si naturel que la flamme monte. Il écouta cette jolie moquerie parisienne, cette élégante satire qui lui révélèrent l'esprit français et réveillèrent en lui mille idées endormies par la douce torpeur de sa vie en famille. Pour lui, Mademoiselle des Touches était la mère de son intelligence, une mère qu'il pouvait aimer sans crime. Elle était si bonne pour lui. Une femme est toujours adorable pour un homme à qui elle inspire de l'amour, encore qu'elle ne paraisse pas le partager. En ce moment, Félicité lui donnait des leçons de musique. Pour lui, ces grands appartements du rez-de-chaussée, encore étendus par les habiles dispositions des prairies et des massifs du parc, cette cage d'escalier meublée des chefs-d'œuvre de la patience italienne, de bois sculptés, de mosaïques vénitiennes et florentines, de bas-reliefs en ivoire, en marbre, de curiosités commandées par les fées du Moyen-Âge, cet appartement intime, si coquet, si voluptueusement artiste, était vivifié, animé par une lumière, un esprit, un air surnaturel, étrange, indéfinissable. Le monde moderne, avec ses poésies, s'opposait vivement au monde morne et patriarcal de Guérande, en mettant deux systèmes en présence. D'un côté, les mille effets de l'art, de l'autre, l'unité de la sauvage Bretagne. Personne alors ne demandera pourquoi le pauvre enfant, ennuyé comme sa mère des finesses de la mouche, tressaillait toujours en entrant dans cette maison, en y sonnant, en traversant la cour. Il est à remarquer que ces pressentiments n'agitent plus les hommes faits, rompus aux inconvénients de la vie, que rien ne surprend plus, et qui s'attendent à tout. En ouvrant la porte, Calliste entendit les sons du piano. Il crut que Camille Maupin était au salon, mais lorsqu'il entra au billard, la musique n'arriva plus à son oreille. Camille jouait sans doute sur le petit piano droit qui lui venait d'Angleterre, rapporté par Conti, et placé dans son salon d'en haut. En montant l'escalier où l'épais tapis étouffait entièrement le bruit des pas, Calliste alla de plus en plus lentement. Il reconnut quelque chose d'extraordinaire dans cette musique. Félicité jouait pour elle seule, elle s'entretenait avec elle-même. Au lieu d'entrer, le jeune homme s'assit sur un banc gothique garni de velours vert qui se trouvait le long du palier sous une fenêtre artistement encadrée de bois sculptés colorés en brou de noix et vernis. Rien de plus mystérieusement mélancolique que l'improvisation de Camille. Vous eussiez dit d'une âme criant quelque De Profundis à Dieu du fond de la tombe. Le jeune amant y reconnut la prière de l'amour au désespoir, la tendresse de la plainte soumise, les gémissements d'une affliction contenue. Camille avait étendu, varié, modifié l'introduction à la cavatine de Grâce pour toi, Grâce pour moi, qui est presque tout le quatrième acte de Robert le Diable. Elle chanta tout à coup ce morceau d'une manière déchirante et s'interrompit. Calliste entra et vit la raison de cette interruption. La pauvre Camille Maupin, la belle Félicité, lui montra sans coquetterie un visage baigné de larmes, prit son mouchoir, les essuya et lui dit simplement « Bonjour ». Elle était ravissante dans sa toilette du matin. Elle avait sur la tête une de ces résilles en velours rouge alors à la mode et de laquelle s'échappaient ses luisantes grappes de cheveux noirs. Une redingote, très courte, lui formait une tunique grecque moderne qui laissait voir un pantalon de batiste à manchettes brodées et les plus jolies pantoufles turques, rouges et or. « Qu'avez-vous ? » lui dit Calliste. « Il n'est pas revenu, » répondit-elle, en se tenant debout à la croisée et regardant les sables, le bras de mer et les marais. Cette réponse expliquait sa toilette. Camille paraissait attendre Claude Vignon. Elle était inquiète comme une femme qui fait des frais inutiles. Un homme de 30 ans aurait vu cela. Calliste ne vit que la douleur de Camille. « Vous êtes inquiète ? » lui demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle avec une mélancolie que cet enfant ne pouvait analyser. Calliste sortit vivement. « Eh bien, où allez-vous ? » « Le chercher, » répondit-il. « Cher enfant, » dit-elle en le prenant par la main, le retenant auprès d'elle et lui jetant un de ces regards mouillés qui sont pour les jeunes âmes la plus belle des récompenses. « Êtes-vous fou ? Où voulez-vous le trouver sur cette côte ?»« Je le trouverai. » « Votre mère aurait des angoisses mortelles, d'ailleurs restez. Allons, je le veux, » dit-elle, en le faisant asseoir sur le divan. « Ne vous attendrissez pas sur moi. Les larmes que vous voyez sont de ces larmes qui nous plaisent. Il est en nous une faculté que n'ont point les hommes, celle de nous abandonner à notre nature nerveuse, en poussant les sentiments à l'extrême. En nous figurant certaines situations, et nous y laissant aller, nous arrivons ainsi aux pleurs, et quelquefois à des états graves, à des désordres. Nos fantaisies à nous ne sont pas des jeux de l'esprit, mais du cœur. Vous êtes venu fort à propos. La solitude ne me vaut rien. Je ne suis pas la dupe du désir qu'il a eu de visiter sans moi le Croisic et ses roches, le bourg de Bas et ses sables, les marais salants. Je savais qu'il y mettrait plusieurs jours au lieu d'un. Il a voulu nous laisser seuls. Il est jaloux. Ou plutôt, il joue la jalousie. Vous êtes jeune. Vous êtes beau. Que ne me le disiez-vous ? Faut-il ne plus venir ? Demanda Calliste en retenant mal une larme qui roula sur sa joue et qui toucha vivement Félicité. « Vous êtes un ange !» s'écria-t-elle. Puis elle chanta gaiement le « Rester » de Mathilde dans Guillaume Tell pour ôter toute gravité à cette magnifique réponse de la princesse à son sujet. « Il a voulu, » reprit-elle, « me faire croire ainsi à plus d'amour qu'il n'en a pour moi. Il sait tout le bien que je lui veux, » dit-elle en regardant Calliste avec attention. « Mais il est humilié peut-être de se trouver inférieur à moi en ceci. » Peut-être aussi lui est-il venu des soupçons sur vous, et veut-il nous surprendre. Mais, quand il ne serait coupable que d'aller chercher les plaisirs de cette sauvage promenade sans moi, de ne m'avoir pas associé à ses courses, aux idées que lui inspireront ses spectacles, et de me donner de mortelles inquiétudes, n'est-ce pas assez ? Je ne suis pas plus aimée par ce grand cerveau que je ne l'ai été par le musicien, par l'homme d'esprit, par le militaire. Sterne a raison, les noms signifient quelque chose, et le mien est la plus sauvage raillerie. Je mourrai sans trouver chez un homme l'amour que j'ai dans le cœur, la poésie que j'ai dans l'âme. » Elle demeura les bras pendants, la tête appuyée sur son coussin, les yeux stupides de réflexion, fixés sur une rosace de son tapis. Les douleurs des esprits supérieurs ont je ne sais quoi de grandiose et d'imposant. Elles révèlent d'immenses étendues d'âme que la pensée du spectateur étend encore. Ces âmes partagent les privilèges de la royauté, dont les affections tiennent à un peuple, et qui frappe alors tout un monde. « Pourquoi m'avez-vous ? » dit Calliste, qui ne put achever. La belle main de Camille Maupin s'était posée brûlante sur la sienne et l'avait éloquemment interrompue. « La nature a changé pour moi ses lois en m'accordant encore 5 à 6 ans de jeunesse. Je vous ai repoussé par égoïsme. Tôt ou tard, l'âge nous aurait séparés. J'ai 13 ans de plus que lui, c'est déjà bien assez. » « Vous serez encore belle à 60 ans, » s'écria héroïquement Calliste. « Dieu vous entende, » répondit-elle en souriant. « D'ailleurs, cher enfant, je veux l'aimer. Malgré son insensibilité, son manque d'imagination, sa lâche insouciance et l'envie qui le dévore, je crois qu'il y a des grandeurs sous ses haillons. J'espère galvaniser ce cœur, sauver de lui-même, me l'attacher. Hélas, j'ai l'esprit clairvoyant et le cœur aveugle. » Elle fut épouvantable de clarté sur elle-même. Elle souffrait et analysait sa souffrance, comme Cuvier du Puitrin expliquait à leurs amis la marche fatale de leur maladie et le progrès que faisait en eux la mort. Camille Maupin se connaissait en passion, aussi bien que ces deux savants se connaissaient en anatomie. « Je suis venue ici pour le bien juger. Il s'ennuie déjà. Paris lui manque. Je lui ai dit, il a la nostalgie de la critique. Il n'a ni auteur à plumer, ni système à creuser, ni poète à désespérer, et n'ose se livrer ici à quelque débauche au sein de laquelle il pourrait déposer le fardeau de sa pensée. Hélas, mon amour n'est pas assez vrai, peut-être, pour lui détendre le cerveau. Je ne l'enivre pas, enfin. Grisez-vous ce soir avec lui, je me dirai malade et resterai dans ma chambre, je saurai si je ne me trompe point. » Calliste devint rouge comme une cerise, rouge du menton au front, et ses oreilles se bordèrent de feu. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle, « et moi qui déprave sans y songer ton innocence de jeune fille. Pardonne-moi, Calliste. Quand tu aimeras, tu sauras qu'on est capable de mettre le feu à la Seine pour donner le moindre plaisir à l'objet aimé, comme disent les tireuses de cartes. » Elle fit une pause. Il y a des natures superbes et conséquentes qui s'écrient à un certain âge « Si je recommençais la vie, je ferais de même. Moi qui ne me crois pas faible, je m'écris « Je serais une femme comme votre mère, Calliste. » Avoir un Calliste, quel bonheur! Eussé-je pris pour mari le plus sot des hommes, j'aurais été femme humble et soumise. Et cependant, je n'ai pas commis de faute envers la société. Je n'ai fait de tort qu'à moi-même. Hélas, cher enfant, la femme ne peut pas plus aller seule dans la société que dans ce qu'on appelle l'état primitif. Les affections qui ne sont pas en harmonie avec les lois sociales ou naturelles, les affections qui ne sont pas obligées, enfin, nous fuient. Souffrir pour souffrir, autant être utile. Que m'importent les enfants de mes cousines Faucombes, qui ne sont plus Faucombes, que je n'ai pas vues depuis 20 ans, et qui d'ailleurs ont épousé des négociants? Vous êtes un fils qui ne m'avait pas coûté les ennuis de la maternité. Je vous laisserai ma fortune, et vous serez heureux, au moins de ce côté-là, par moi, cher trésor de beauté, de grâce, que rien ne doit altérer ni flétrir. » Après ces paroles dites d'un son de voix profond, elle déroula ses belles paupières pour ne pas laisser lire dans ses yeux. « Vous n'avez rien voulu de moi, » dit Calliste. « Je rendrai votre fortune à vos héritiers. »« Enfant, » dit Camille d'un son de voix profond, en laissant rouler des larmes sur ses joues, « rien ne me sauvera-t-il donc de moi-même ?»« Vous avez une histoire à me dire et une lettre à me... » dit le généreux enfant pour faire diversion à ce chagrin. Mais il n'acheva pas, elle lui coupa la parole. « Vous avez raison, il faut être honnête fille avant tout. Il était trop tard hier, mais il paraît que nous aurons bien du temps à nous aujourd'hui. » dit-elle d'un ton à la fois plaisant et amer. « Pour acquitter ma promesse, je vais me mettre de manière à plonger sur le chemin qui mène à la falaise. » Calliste lui disposa dans cette direction un grand fauteuil gothique et ouvrit la croisée à vitraux. Camille Maupin, qui partageait le goût oriental de l'illustre écrivain de son sexe, alla prendre un magnifique narguilé persan que lui avait donné un ambassadeur. Elle chargea la cheminée de patchouli, nettoya le bocchettino, parfuma le tuyau de plume qu'elle y adaptait et dont elle ne se servait jamais qu'une fois, mit le feu aux feuilles jaunes, plaça le vase à long col émaillé bleu et or de ce bel instrument de plaisir à quelques pas d'elle et sonna pour demander du thé. « Si vous voulez des cigarettes ? Ah, j'oublie toujours que vous ne fumez pas. Une pureté comme la vôtre est si rare. Il me semble que pour caresser le duvet satiné de vos joues, il faut la main d'une Ève sortie des mains de Dieu. » Calliste rougit et se posa sur un tabouret. Il ne vit pas la profonde émotion qui fit rougir Camille. « La personne de qui j'ai reçu cette lettre hier, et qui sera peut-être demain ici, est la marquise de Rochegude, la belle-sœur de Madame d'Ajuda Pinto, » dit Félicité. Après avoir marié sa fille aînée à un grand seigneur portugais établi pour toujours en France, le vieux Rochegude, dont la maison n'est pas aussi vieille que la vôtre, voulut apparenter son fils à la haute noblesse, afin de pouvoir lui faire avoir la pairie qu'il n'avait pu obtenir pour lui-même. La comtesse de Montcornet lui signala dans les départements de l'Orne une mademoiselle Béatrix Maximilienne Rose de Casteran, fille cadette du marquis de Casteran, qui voulait marier ses deux filles sans dot, afin de réserver toute sa fortune au comte de Casteran, son fils. Les Casteran sont, à ce qu'il paraît, de la côte d'Adam. Béatrix, née, élevée au château de Casteran, avait alors, le mariage s'est fait en 1828, une 20aine d'années. Elle était remarquable parce que vous autres provinciaux nommez « originalité » et qui n'est simplement que de la supériorité dans les idées, de l'exaltation, un sentiment pour le beau, un certain entraînement pour les œuvres de l'art. Croyez-en une pauvre femme qui s'est laissée aller à ses pentes, il n'y a rien de plus dangereux pour une femme. En les suivant, on arrive où vous me voyez et où est arrivée la marquise, à des abîmes. Les hommes ont seuls le bâton avec lequel on se soutient le long de ces précipices, une force qui nous manque et qui fait de nous des monstres quand nous la possédons. Sa vieille grand-mère, la douairière de Casteran, lui vit avec plaisir épouser un homme auquel elle devait être supérieure en noblesse et en idées. Les Rochegude firent très bien les choses, Béatrix n'eut qu'à se louer d'eux. De même que les Rochegude durent être satisfaits des Casteran qui, liés aux Gordon, aux Desgrignon, aux Tréville, aux Navarreins, obtinrent la pairie pour leur gendre dans cette dernière grande fournée de pairs que fit Charles X et dont l'annulation a été prononcée par la Révolution de Juillet. Le vieux Rochegude mort, son fils a eu toute sa fortune. Rochegude est assez sot, néanmoins il a commencé par avoir un fils, et comme il a très fort assassiné sa femme de lui-même, elle en a eu bientôt assez. Les premiers jours du mariage sont un écueil pour les petits esprits comme pour les grands amours. En sa qualité de sot, Rochegude a pris l'ignorance de sa femme pour de la froideur. Il a classé Béatrix parmi les femmes lymphatiques et froides. Elle est blonde, et il est parti de là pour rester dans la plus entière sécurité, pour vivre en garçon, et pour compter sur la prétendue froideur de la marquise, sur sa fierté, sur son orgueil, sur une manière de vivre grandiose qui entoure de mille barrières une femme à Paris. Vous saurez ce que je veux dire quand vous visiterez cette ville.